Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules vous saluent. Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, RMC Story, si vous nous rejoignez maintenant pour le débat, pour l'actualité. C'est l'heure des GG des Grandes Gueules. Bonjour Olivier.
C'est parti, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous.
Nous sommes avec Étienne Libig, éducateur. Bonjour mon cher Étienne.
Bonjour à tous et bonjour à Evelyne, une auditrice de Bondy.
Nous sommes avec Willy Schran, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Bonjour Willy.
Bonjour à tous.
Venu des Hauts-de-France, Willy.
De Bayinghem, les pins.
Les pins.
Les éperlets.
Bravo.
Bayinghem, les éperlets.
Si, on aurait du mal à l'écrire.
Il y a plein de monde qui va, je sais, aux États-Unis. Il y a un grand truc marqué éperlets. Il y a un vol. Il y a un vol spécial.
C'est jumelé avec Washington.
Autant de parachutes parce qu'il n'y a rien à voir avec les avions, mais effectivement, il y a quelque chose.
Et puis elle est de retour de Cannes. Notre avocate Sarah Salman. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Lady Salman, parce que on va montrer une photo. Sarah Salman à Cannes, ça dégage.
Ah quand même.
Magnifique robe.
Signé de qui la robe?
Christophe Guillarmé.
Oui. Un jeune créateur qui
a fait. Oui, c'est un créateur. Et j'ai été coiffée par Royal Extension, maquillée par Élisée Marbeuf.
Ah oui, d'accord. C'est
la totale.
Et dis-nous, ça fait quoi d'être sur le tapis rouge entouré de photographes là?
Bah, franchement, moi j'ai adoré. Je l'ai fait plusieurs fois de suite. J'ai adoré, voilà, disons les choses. T'arrives. Alors, il y a juste une petite difficulté. Il y a deux difficultés. Je vais vous faire le backstage. C'est que vous arrivez, vous avez un véhicule accrédité qui vous dépose devant. Mais il y a à peu près 200 mètres à marcher. Avec une robe longue, c'est très dur. Ensuite, on monte les marches.
T'as dû en chier.
C'est ça la pénibilité du travail.
Non, mais c'est ça, on n'en parle jamais.
Jamais.
Ensuite, une fois qu'on part, il n'y a pas de véhicule, sauf si on regarde tout le film.
T'as pas pu te faire remplacer par un immigré?
En fait, tu repars à pied, quoi, en fait. T'arrives en bagnole, comme une princesse, et tu repars.
Tu repars laborieusement.
Comme une citrouille.
Tu te fais appeler un agent de sécu, et c'est très, très, très laborieux.
Et tu repars laborieusement vers ton dîner.
Non, parce qu'il faut d'abord. Mais non, faut d'abord que tu vas pas aller au dîner comme ça. D'abord, tu te changes pour aller à ton dîner.
Ah, tu vas pas dîner comme ça.
Bah non. Tu
rends la robe parce que tu as peur de l'abîmer.
Oui.
Tu rends la robe et ensuite.
Donc tu te changes.
Change,
et à minuit, ça se retransforme en citrouille, de toute façon.
Alors, Étienne, est-ce que tu aurais envie de faire la montée des marches?
Moi, j'aimerais la faire si j'écris un scénario. Pas pour me montrer, j'en ai rien à foutre. Mais si j'écrivais un scénario.
Ah, mais moi, c'était pas pour me montrer.
Et qu'il était pris sur un film, ce serait.
Alors,
génial,
je vais vous dire avec qui j'étais le premier jour. Le premier jour, il y avait Nabila à côté de moi.
Ah, bah, dis donc.
Génial.
Arrêtez. Comme on me surnomme la Nabila du Barreau, je me suis dit, c'est peut-être un signe. Deuxième jour, j'étais entre Carla Bruni et Carole Bouquet.
Pas mal.
Ah ouais. Pas mal. Pas mal.
Chic. Ouais. Les gens étaient beaux.
Ouais, ils sont tous beaux.
Ah bah, non, pas
Sarah,
tous.
Ils étaient un peu riches aussi.
Alors,
on a beaucoup exagéré.
Non, ils ont l'air riches, ils ne le sont pas.
Est-ce que tu regardes les films? Parce que le but du jeu, c'est de rejoindre une salle de cinéma. Non. D'accord.
T'as dormi ensuite.
Est-ce que t'as une proposition?
Non,
est-ce que t'as une proposition, Sarah?
Non.
Pour un film, quelque chose? Non.
L'adaptation des Grandes Gueules au cinéma.
Oh, ce serait incroyable.
Ouais. Qui pourrait jouer le rôle d'Étienne Yebig?
Étienne Yebig.
Bah, et lui-même.
Moi, je verrais bien François Berléand, tu vois.
Et moi, qui pourrait me faire?
Il y a du style.
Et là, Willy Schren, ça serait
un truc de composition
pour Berléand. S'appelle. Tu vois de qui je parle, Alain Marchal. Willy Schren, un acteur qui est dans The Big Lebowski.
Ah oui, John Goodman.
John Goodman.
Trouvons un acteur.
Et pour moi,
français.
C'est qui?
Si, moi je verrais bien.
Un acteur français.
Grégory Doucet. Non, pas Grégory. C'est Grégory Gadebois.
Gadebois.
Super acteur.
Et Sarah Salman.
Catherine Deneuve.
Non, ça, tu me fais penser à Pascal Arbillot. Je sais pas si tu connais cette
actrice. Ah non, mais c'est Laurent Ruquier, quand il a présenté mon livre sans moi, il a pris la couverture et il a dit c'est Pascal Arbillot.
Tu lui ressembles.
Alors je suis allée voir à quoi elle ressemblait. Oui, mais elle a 20 ans de plus que moi quand même.
Oui, voilà. Mais tu... Avec un peu de maquillage.
Oui, ça va s'arranger.
Les aventures de Sarah Salman à Cannes, c'était dans les GG, dans les Grandes Gueules. Ça pourrait en faire un film, un long métrage aussi. Ça reste dans les annales de la politique. Le combat contre la réforme des retraites, il continue. C'était à l'Assemblée nationale en commission hier. Et c'est encore monté en tension.
RMC, les Grandes Gueules.
Avant de revenir sur à quel point la Macronie est en dérive mafieuse, et je pèse mes mots, sur la manière dont on essaye de nous empêcher de discuter une loi avec un loto autoritaire 49.3, 47.1, 44.2, 44.3 et maintenant article 40 que vous sortez du chapeau. Vous êtes des dangers pour la démocratie aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer. Nous n'allons pas continuer à discuter des amendements comme si rien ne s'était passé. Nous n'allons pas continuer à examiner à un les choses sans en fermant les yeux sur l'acte d'autoritarisme incroyable que vous avez fait. Et je vais vous dire, Madame la Présidente, bien, Madame vous abaissez l'Assemblée nationale.
Ah, dérive mafieuse, danger pour la démocratie, bon. Autoritarisme, abaissement de l'Assemblée nationale. C'était mal la députée Mathilde Panot hier en commission.
Alors, de quoi en fait que s'est-il passé en fait les députés étaient donc réunis lors de cette commission des affaires sociales et ils ont donc majoritairement, il y a une majorité Renaissance et une partie des LR, voté contre l'article 1 de la proposition de loi du groupe Liotte, désormais célèbre, qui vise donc à abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Ça veut dire que c'est un peu la fin de l'histoire de cette proposition de loi Liotte. De toute façon, depuis le début, on sait que ça n'ira pas très très loin. C'est une façon aussi de prolonger le combat. Mathilde Panot, alors les Insoumis, forcément, ils ont perdu hier, donc ils l'ont mauvaise. Ils parlent de dérive mafieuse, de l'auto-parlementaire, de déni de démocratie, etc. Alors, ça veut dire quand même que la semaine prochaine, on aura quand même une nouvelle journée d'action. Ça sera mardi prochain à l'appel de l'intersyndicale. En fait, on va manifester contre un texte qui a été voté, qui a été promulgué et qui va entrer en vigueur en septembre. Alors la question, est-ce qu'il faut, il n'est pas temps d'arrêter de siffler à la fin de la partie et reconnaître du côté de l'opposition et peut-être des syndicats que c'est une défaite et que ce texte, même si on le trouve insupportable, il va passer.
32-16 pour en parler avec les GG. Étienne.
Alors moi, je dois dire que j'ai. On atteint les limites du. C'est très compliqué cette histoire. Moi, je sais même pas que le texte il pouvait revenir. J'avais pas compris ça et j'avais pas. Enfin, j'ai vraiment été chercher parce que alors, c'est la législation. C'est pas très compliqué. Là, c'est très technique. Hein, c'est très technique parce que en plus bloquer cet amendement numéro 1. Donc évidemment, c'est celui-là qui compte puisque c'est l'amendement qui est du passage de 62 ans à 64 ans. Donc ça vide le texte de toute sa substance. Moi, je trouve tout à fait légitime, j'aurais bien été incapable de le faire, mais je trouve tout à fait légitime qu'on aille jusqu'au bout du combat, puisqu'il y a une majorité de Français, a priori, qui continue d'être contre ce texte, que les députés, un certain nombre, se sentent investis du rôle de représentation du peuple. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils aillent au bout des possibilités de lutte contre ce texte. Et, enfin, ça fait partie, visiblement, c'est constitutionnel, ça fait partie de ce à quoi on a le droit en
tant que
député.
Pourquoi être parlé de dérive mafieuse ?
Et quand on perd, on peut continuer de se battre parce qu'on
n'est pas obligé de vous dire que c'est une dérive mafieuse.
Mais ensuite, dans le combat, il y a effectivement depuis toujours des mots qui sont lâchés parce que effectivement, ils sont les mots de la colère, ils sont les mots de et c'est tout à fait normal. Et moi, je vais te dire,
c'est pas ridicule.
Le résultat, ce qui est ridicule, c'est que beaucoup de Français ont quand même le sentiment. Un, que le débat a été tronqué d'une façon générale et qu'on n'a pas pu débattre réellement. Et deux, que quand le gouvernement veut vraiment quelque chose, il l'obtient par le système de la Ve République. Il l'obtient même quand tout le monde est contre et que finalement on a un sentiment d'avoir été floué. Même si tout cela est légal, même si tout cela est écrit dans la Constitution, le sentiment qui restera de ça, et le sentiment qui restera de ça, c'est que finalement nous nous sommes fait baiser largement. Parce que la Constitution le permet. Voilà, c'est ça qui restera. Et donc c'est une, c'est
parce
presque.
Que t'as voté Emmanuel
je dirais
Macron,
que c'est
tour.
Presque. Je dirais que c'est presque une
vrai,
une
ça,
preuve
Etienne.
Qu'on doit passer dans quelque chose de différent vis-à-vis de la démocratie.
Pour qui tu as mis un bulletin.
Est-ce que je peux terminer?
Oui.
Non, c'est presque la preuve. C'est presque la preuve qu'on est arrivé au bout de la Ve République en ce qu'elle permet. Ben non, ce qu'elle permet d'un pouvoir ultra présidentiel, dans laquelle finalement même les chambres ne sont pas comme aux États-Unis ou comme en Angleterre, qui sont aussi de grandes
t'as
démocraties.
T'as oublié de parler de l'Allemagne.
C'est pas le même système.
Non, mais Étienne,
c'est pas le même système. Bah, et je pense qu'on est arrivé au bout.
C'est un peu contradictoire, non? Parce que ces mêmes insoumis utilisent les outils de la Cinquième, les sous-amendements pour faire de l'obscurcie parlementaire. Donc en fait, tout le monde utilise les armes de la Constitution et de la Cinquième. Les deux.
Mais
donc c'est le
combat se fait.
Non, mais le combat se fait armes.
armes égales, sauf qu'il y en a toujours un qui gagne à un moment, et là, avec les mêmes armes.
Quand il y a une majorité, c'est la majorité qui gagne, c'est le principe de la démocratie.
Bien sûr.
Bah oui.
Dans cette commission, on a vu ce qui s'est passé. On ne peut pas dire qu'il y a une magouille ou un truc mafieux, ça c'est ridicule de dire. Ce que dit Panot, c'est complètement con. Par contre, il y a eu un vote, et à deux voix près, c'est vrai, ça a rejeté le premier article de cette loi. Bon, bah, c'est tout. Autant on peut discuter sur le 49-3, autant là, dans cette commission, il y a eu un vote, majoritairement, qui a rejeté l'article. Bon, j'ai compris que Liotte voulait le représenter, effectivement, en plénière.
Non, oui.
Mais bon, mais après,
ça pas.
C'est non. Pas moi qui vais critiquer le fait de continuer jusqu'au bout quand on a le sentiment d'avoir perdu quelque chose qui est injuste. Je sais de quoi je parle dans le domaine de la rivalité ou de la chasse. Il y a beaucoup de causes que qui sont menacées aujourd'hui. Et je comprends les gens qui veulent aller jusqu'au bout. On revient toujours à la même chose. Au début de ce qui s'est passé pour cette loi, une incompréhension des gens. Probablement un système qui a été proposé qui n'était pas clair. J'en veux toujours pour preuve. Je demande autour de moi encore à des gens aujourd'hui. Tu pars qu'en retraite. Tout le monde est paumé. On ne sait pas bien les choses. Donc, de toute façon, ça restera une plaie ouverte. Moi, je pense qu'il y aura des soubresauts encore longtemps de ce qui s'est passé. Même si je comprends, quand on a perdu, on doit arrêter. Mais c'est pas tout à fait perdu, puisqu'il reste encore des solutions. Et je comprends que les gens, démocratiquement, se battent pour une cause. Peut-être que je ferai pas la même chose à leur place, mais je trouve légitime qu'ils le font. Ça me choque pas outre mesure.
Bah moi, ça me choque. Ça, je trouve que c'est un cirque, un acharnement inutile. À un moment, quand on fait quelque chose et qu'on sait qu'on a perdu et qu'on va jusqu'au bout en sachant que l'on va perdre, c'est presque ça, c'est ça bafouer la démocratie. C'est pas utiliser les outils démocratiques. Et là, Étienne, tu dis qu'on est arrivé à bout de souffle de la Ve République. Alors, dans ce cas-là, les Insoumis aussi utilisent les outils démocratiques prévus par la Constitution. Donc, tu as une indignation à géométrie variable.
Non, pas du tout. Si. Je trouve, par exemple, que l'obstruction qui a été faite au début avec la présentation
de temps. Oui, mais là, on parle de ce qui se fait aujourd'hui.
Je trouve que c'est une connerie de la part des Insoumis.
Mais ce qu'elle dit là, c'est
d'ailleurs,
une connerie
c'est
aussi.
C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vote. Hein.
À oui, mon avis, c'est pour vrai. Ça. Bon.
Mais là, ce qu'elle fait aussi, c'est un acharnement inutile. C'est-à-dire qu'elle persiste pour faire quelque chose qu'elle sait vouer à l'échec.
Moi,
et elle crie au scandale et ouais. Ils partent quand ça ne va pas.
Et moi, je pense en plus qu'on ment aux Français qui sincèrement pensent qu'il y avait encore un coup à jouer.
Ça, c'est vrai.
Et notamment aux gens qui ont cru réellement que le match n'était pas fini alors qu'il est fini. Et ça, je trouve que ces responsables politiques jouent avec le feu parce que il y a des Français sincèrement qui sont contre cette réforme, à qui on fait croire que ce n'est pas terminé, qu'il faut une nouvelle journée d'élection la semaine prochaine, qu'il y a de l'espoir.
Ça, c'est autre chose,
cet espoir, on sait très bien qu'il n'existe pas, que le match est terminé, que la loi va être appliquée. Et ça, je trouve ça dangereux.
Mais pourquoi tu
parce
dis
que
l'Iotte, c'est pas l'extrême gauche, à ma connaissance, hein, excuse-moi.
Oui, mais Charles de Courson, d'accord, je pense que c'est son dernier tour de piste.
Charles de Courson, c'est maximum pour faire de l'anti-LFI.
Charles de Courson, alors si tu veux que je parle de Charles de Courson, c'est quand même le même qui conseillait Valérie Pécresse.
Il voulait la retraite à 65 ans.
Il voulait la retraite à 65 ans, qui a passé toute sa vie à nous expliquer qu'on partait trop tôt au travail et qui tout d'un coup, touché par
dernier coup d'éclat.
Moi, je pense qu'il est.
Là,
on est dans un truc psychanalytique.
Comme il sait qu'il est fini, il veut mettre le paquet pour exister.
C'est son dernier tour de piste. Il y a un côté.
On est ridicule.
Voilà. Sincèrement, je trouve ça assez ridicule, Charles de Courson.
On va aller dans les Hauts-de-Seine.
Vous êtes unanime, quoi, en gros. Hein.
Non.
Tu es là pour apporter la contradiction.
On n'est pas unanime là-dessus, Étienne.
Moi, je vais d'abord cracher sur LFI.
Non, mais pas du tout.
Le but, c'est d'abord cracher sur LFI. Ah non, mais. Vas-y, LFI. Non, mais. Je dis, non, on n'est pas tous d'accord contre toi. C'est pas vrai. Je pense que le jeu parlementaire qui se joue là, même s'il reste un tout petit espoir, ils ont raison de le jouer. C'est le jeu, c'est comme ça.
Moi, j'ai cru au référendum. Moi, j'ai cru au
référendum. Je suis contre, et là, je comprends pas. C'est quand, d'abord, on insulte les gens, comme ça se fait maintenant beaucoup à l'Assemblée nationale, et quoi que tu dises, LFI est très violent dans ce domaine, et ça, c'est vrai. Et en plus, par contre, là où c'est dangereux, c'est dire aux gens, on va retourner dans la rue, parce qu'à un moment, on y va pourquoi? On va tout casser, hein. Ça va finir comme ça.
Oui.
Et là, c'est pas bon. Par contre, le jeu parlementaire, le jeu législatif, jeu juridique, pourquoi pas? C'est normal. Et
Willy, c'est normal. Perdu
d'avant. Oui, mais.
C'est perdu d'avant.
Si, mais non. S'il y a un petit espoir pour ces gens, je peux le comprendre. Il est très faible, je suis d'accord avec toi.
La pression de la rue, ça existe aussi dans la
pression, mais pas la violence.
On a vu en 68 que le gouvernement a reculé. Remettre
les gens dans la rue, là, maintenant.
On a vu des États reculer.
Ça va mal finir.
Alors que tu sais pertinemment, au fond de toi, que ça ne l'est pas.
Nous sommes avec Aliou, qui est conseiller funéraire dans les Hauts-de-Seine, fidèle des GG. Bonjour Aliou.
Oui, bonjour les GG, bonjour à tous.
Aliou, alors, est-ce que la partie est pliée maintenant et l'opposition doit accepter sa défaite?
La partie est pliée, je ne sais pas. L'opposition doit accepter sa défaite, non. la Macronie découvre enfin ce qu'est une réelle opposition. Et moi, je salue, et je suis totalement d'accord avec Mathilde Panot, avec ses propos. Je pense que même si éventuellement on flirte avec l'insulte, même si pour moi l'insulte, Willy Schrein disait que les insoumis ne cessent d'insulter au niveau du Parlement. Moi, la seule insulte que je vois, c'est l'insulte qui vient du gouvernement et de la Macronie, qui ne cesse d'insulter les Français, qui refusent d'entendre. Et aujourd'hui, la réelle question à se poser, c'est que la Macronie est en train de créer un précédent. Vous vous rendez compte que si demain le RN, Marine Le Pen, arrive au pouvoir, aujourd'hui, la Macronie est en train de lui dresser un tapis rouge pour en faire une jurisprudence, mais incroyable. C'est qu'aujourd'hui, je gouverne contre tout, contre les avis de tout le monde et je m'en fous, et que je dégaine, comme le dit Mathilde Panot, à coup de l'auto 49.3, 47.1 et tout le tralala qui s'ensuit.
Bah, ça s'appelle la Constitution. Mais,
pardon, oui.
Ça s'appelle la Constitution. Mais c'est vrai que Mathilde Panot est contre la 5e République.
Non, mais c'est vrai que
le cohérent,
c'est
Mathilde Panot.
C'est dans le point de vue.
Mais pardon, excusez-moi, mais dans ce cas-là, il faudrait aussi le remettre en question. D'ailleurs, c'est à ça que sert des députés, un gouvernement, de se dire on est arrivé à bout et surtout ne pas créer des précédents. Parce que systématiquement, on dit oui, la France Insoumise, oui, le RN sont des partis qui ne sont pas républicains. On sait tous que.
On n'a jamais dit ça.
Pardon ?
On n'a jamais dit ça.
Mais vous moi, je dis simplement.
Non, non,
moi, je. Vous entendez.
Ah non, moi je dis simplement, c'est que les insoumis. Non, mais les insoumis sont contre la 5e, c'est dans leur programme.
Ils le disent
eux-mêmes. Ils veulent une 6e République.
Mélenchon le dit.
Enfin, c'est le programme de Mélenchon, pardon.
Non, mais moi je ne suis pas insoumis, mais là je me fais le porte-parole limite de la France Insoumise. Moi je pense qu'aujourd'hui ils incarnent la réelle opposition. La Macronie est en proie à l'incohérence et à la dérive autoritaire. Et son chef est Emmanuel Macron. On l'a vu d'ailleurs, je vais être un peu hors sujet avec Elisabeth Borne lorsqu'il la recadre. Il recadre quand même quelqu'un qui est la fille d'un déporté d'Auschwitz. Mais on est dans un monde de fous quand même. Et il n'y a aucun commentateur, il n'y a aucun journaliste pour dire est dans un monde de fous, pourquoi il la recadre.
Moi je suis d'accord avec vous, mais attention, parce que moi je pense très sincèrement qu'il est important qu'un État et qu'un gouvernement puissent voter des lois impopulaires. Parce que on pourrait très bien imaginer que des lois sont impopulaires, mais néanmoins nécessaires, notamment des lois morales. Il peut y avoir un peuple qui, par exemple, serait complètement engagé dans des événements très immoraux, parce que et que ce soit l'État qui dise non. Calmons-nous, on va donc l'État, il peut. On l'a vu par exemple pendant les périodes de guerre, de voter, de prendre une décision courageuse au niveau de l'État, même contre son propre peuple, pourrait être. Ben évidemment, on aurait pu imaginer qu'on donne pas les pleins pouvoirs à Pétain. Donc excuse-moi. Toi, tu veux que non, mais je trouve qu'important qu'il y ait tout ça. Moi, je
ne sais pas.
C'est parler de dérive mafieuse. Bien sûr que les insoumis sont dans leur rôle. Moi, je suis d'accord avec l'opposition.
Mais les termes sont inappropriés.
Je suis d'accord avec Aliou. Je suis d'accord avec Aliou.
Depuis... pour des mots.
Mais sincèrement,
ça fait 200 ans que les gens s'insultent à l'Assemblée nationale. Non, c'est maintenant que vous pleurez.
Allez, on va continuer d'en discuter. Merci à Aliou d'avoir été avec nous. Aliou de Haute-Seine. On va aller dans le Val-de-Marne ensuite avec Loïc, qui est expert comptable. Est-ce que la France Insoumise est allée trop loin hier encore en disant dérive mafieuse, danger pour la démocratie, autoritarisme. Est-ce qu'elle doit finalement accepter l'opposition qu'elle a perdu la partie sur les retraites? À tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Sarah Salman, avec Willy Schran, avec Étienne Liebig. On revient, et avec vous, surtout au 32-16 comme Aliou il y a un instant. On revient sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale avec les mots durs employés par la NUPES et la France Insoumise, surtout à l'encontre du gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi Alliot. Et ce matin, Aurore Berger, qui était l'invitée d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV, a répondu à Mathilde Panot à ces termes de dérive mafieuse, danger pour la démocratie, autoritarisme. Voilà ce qu'elle disait, Madame Berger.
Ah ben on a peur de rien, j'allais dire. On n'a surtout pas peur de la démocratie et du vote. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé, c'est des scènes assez ahurissantes. forme d'intimidation. Je parle même pas des hurlements, des cris, des tentatives d'obstruction qui étaient manifestes de la part de la France insoumise. Parce qu'en vérité, quand la démocratie parle, quand un vote a lieu, mais qu'il ne leur convient pas, alors ils considèrent qu'il n'y a pas de démocratie. C'est systématiquement ça avec les mélenchonistes. Quand la démocratie parle, mais ne va pas dans leur sens,
avec vous, y a pas de
ça
vote.
Voudrait dire qu'il n'y a pas de démocratie. Ben nous, il y a eu un vote. Et la seule chose qu'on voulait hier, c'était pouvoir avoir un débat, espérer avoir un jour peut-être un débat serein sur la question des retraites à l'Assemblée nationale.
Loïc, bonjour.
Bonjour Loïc. Bonjour les grandes gueules.
Bonjour Loïc. Alors, est-ce que l'opposition doit accepter sa défaite là aujourd'hui?
Légalement, par la loi, bien évidemment. Je rejoins complètement ce que vous disiez, Monsieur Lebig. Il y a un moment donné, il faut être conscient de défaite, c'est la démocratie, et d'échec sur une contestation d'une loi. Alors ça, c'est la partie, vous savez, c'est moi je suis dans l'expertise comptable, c'est comme la différence entre la comptabilité officielle et je dirais la gestion un peu parfois au quotidien. Donc il y a un peu la loi, légalement, oui, il faut, de mon point de vue pour le moment, accepter cette défaite-là, et puis il y aura le retour dans les urnes sur la prochaine présidentielle pour cela.
Exactement.
Maintenant, il y a un véritable souci, encore une fois, et on le voit bien avec... Vous venez de rappeler les propos d'Aurore Berger. Nous n'avons pas peur de la démocratie du vote. Il y a un moment donné, ça me fait penser à, encore une fois, le grand patron. Hein, on croise des gens qui sont tout et qui sont rien. Mais là, ils ont un niveau de malveillance dans la gestion humaine qui fait qu'à un moment donné, ils ont aggravé le sentiment d'énervement et de colère du pays qui décide de faire cette loi au sorti de la crise. Avec la guerre, avec le Covid qu'on s'est tapé, qui décide de faire ça à ce moment-là, en changeant complètement le système de calcul des retraites. J'ai travaillé avec Alain Grisé sur le premier projet à l'époque du point universel, vous souvenez-vous, ça n'a rien à voir. On est quand même avec une réforme qui n'a absolument rien à voir avec le système de fond, qui est rejeté par tout le monde, vraiment quasiment par tout le monde. Et là, le souci qu'on a, c'est qu'il y a la loi et la démocratie, mais il y a un moment donné, celle-ci ne peut pas rentrer en conflit avec une majorité de population qui, en plus, parfois, pardonnez-moi, mais avec les mots, se sentent de plus en plus irritables, de manière d'ailleurs consciente ou inconsciente.
Vous dites que pour une formation politique qui dit on n'a pas peur de la démocratie, ils auraient dû aller au vote et accepter éventuellement de perdre. Quoi.
La force symbolique face à la force réelle. Et à ce titre-là, moi je trouve que la suite qu'il y a eu sur le 49-3, puis les refus, par exemple, des consultations populaires, puisqu'on, dans ma tête, moi, j'imaginais que c'était possible de faire un référendum d'initiative populaire, puisque c'est un appel direct à la population, et on nous avait fait rêver un petit peu sur le fait que c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place à la Suisse. Et en fait, là, on a l'impression qu'il y a eu un enchaînement de moyens de bloquer,
Loïc, sur le plan symbolique. Mais reconnaissez qu'on vit quand même une drôle de période aujourd'hui où on reproche à une majorité certes relative, mais de faire voter avec tout ce que les outils démocratiques permettent, de faire voter son programme avec une opposition qui conteste, qui utilise elle aussi les outils du Parlement
dans le programme
pour
de
contester. Bon, mais il y en a un qui à un moment utilise le 49-3. Mais c'est le jeu politique. Et si jamais on n'est pas content et qu'on en a assez d'Emmanuel Macron, ben rendez-vous soit à des élections intermédiaires s'il dissout l'Assemblée nationale, soit en 2027.
Reconnaît aux opposants le droit de s'opposer.
Mais ils le font.
Ils sont mauvais perdants. Parce que quand ils perdent, ils disent des rives mafieuses. Je suis désolé, quand tu perds, tu dis pas des rives mafieuses, tu dis on a perdu. Et rendez-vous effectivement dans 4 ans. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon s'est déjà présenté 3 fois à l'élection présidentielle. Il n'a pas été en mesure d'être.
Madame,
donc
les Français n'ont pas non plus validé son programme.
Allez-y, Loïc.
Il y a un autre souci, encore une fois, qui est vraiment, même les gens qui s'y connaissent, hein, pardon, excusez-moi, je ne suis pas Dieu le Père, mais ceux qui s'y connaissent sur la partie de la technique, enfin, j'entends pas assez sur vos plateaux télé. Bruno Le Maire l'a dit, au même niveau un peu que ce que vient de dire Aurore Berger, hein, on est pour la démocratie du vote, alors ils ne font pas de vote sur cette loi, enfin, on est complètement dans le déni de la réalité. Bruno Le Maire a sorti une seule fois, et il ne l'a pas fait 2 fois, que la CVAE, qui va taxer uniquement le CAC 40, puisque c'est sur avant tout des entreprises extrêmement riches, va être supprimé en 2023 et 2024, et ça sera compensé par la réforme des retraites. C'est ce qu'on a envoyé au budget pour l'Union européenne. Personne ne parle, en fait, des arguments mensongers de tout le gouvernement, puisque moi, j'ai le projet de loi de finances issu de l'Élysée et de l'État, qui stipule concrètement, nous allons supprimer 8 milliards sur le CAC 40,
sur l'impôt de production sur la valeur ajoutée qui s'appelle la CVAE. Et ça sera, financé
cadeau aux actionnaires, comme d'hab.
Excusez-moi, si vous voulez éviter l'opposition.
Peut-être cadeau à l'outil de production aussi,
Étienne. Oui, mais. Donc bien leur responsabilité.
157 milliards d'aides aux
entreprises. Heureusement, parce qu'on serait dans quelle merde.
Et l'opposition s'est excitée. L'opposition a contesté. L'opposition a utilisé ses armes. Mais à la fin, il y a une fin de partie qui est sifflée, démocratique, politique.
Et donc, on doit être couché.
Comment?
Bah oui. On peut toujours
se coucher. On doit des fois passer des lois impopulaires. Et oui, c'est bien
mais
ça.
Mais quand ça ne te convient pas, nous, on doit les mettre.
Excusez-moi.
À partir de là,
je pense qu'on va utiliser ça. On va utiliser tout ce qui est en notre pouvoir, à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois dans la rue si c'est nécessaire.
Il y a une journée de manifestation.
Faire reconnaître, mais ça fait partie du jeu démocratique depuis très longtemps.
Alors le jeu démocratique,
il s'arrête
quand?
Je te pose la question.
À partir
de la semaine prochaine, il y a une nouvelle journée d'action et ensuite il y aura la proposition de Lyotte. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors
après, ça laissera un goût très amer. Et pas seulement chez les gens de LFI, ça laissera un goût très amer, dégoûtera éternellement de la politique.
Quand je t'écoute là-dessus et tout à fait calmement, ça me fait très peur. Je me dis, dans le fond, si tu incarnes cet esprit, tu dis nous à un moment, donc ça veut dire que tu t'associes idéologiquement à ce que représentait LFI.
Non,
ça veut dire
opposition à la loi.
Ça veut dire quand même à un moment, si la sixième république que nous promet Mélenchon et les filles, c'est en fin de compte, quand on n'a pas raison, on pète tout et on n'est pas d'accord, c'est la dictature, mon ami.
Et ce sont des dérives mafieuses.
C'est la dictature.
Et ça, c'est pas une insulte. Ça, c'est pas une exagération.
Tu dis toi-même.
Le droit d'aller dans la rue, c'est pas de la dictature.
Mais aller dans la rue pour foutre le bordel.
C'est pas ça. Ça veut dire que tout casser.
Mais les manifestants ont foutu le bordel.
Non, mais attends,
Dorian, sauf que là, on renverse les rôles. On dit, ces gens sont au pouvoir. À un moment, à l'Assemblée nationale, ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent. Sens 10 par rapport au 49-3, ce que tu me décris là. Alors, c'est la dictature.
Merci à Loïc d'avoir été avec nous. On va aller dans les Alpes-Maritimes retrouver Brian qui est responsable de parc. Bonjour Brian.
Bonjour Brian.
Bonjour à tous.
Bienvenue. Bonjour, Brian. Alors est-ce que l'opposition passe à autre chose ou est-ce que la contestation doit continuer? Dites-nous.
Alors, je vais vous dire, et ça me fait mal de dire ça parce que la personne qui vous parle n'a pas voté Macron.
Oui.
Mais il faut passer à autre chose. J'aimerais juste refaire un tout petit peu d'histoire avant de continuer. Quand Macron a proposé avec les Adobe et son gouvernement, lorsqu'ils ont proposé la réforme des retraites, ils ont d'abord mis en place le 47.1 qui permettait d'avoir des débats très courts à la fois. Oui. Donc bon, premièrement, la NUPES qui a une lourde responsabilité lors de ces débats parce que ils ont choisi de faire de l'obstruction parlementaire avec plus de 20 000 amendements, ce qui a retardé en fait et ce qui a empêché le vote, notamment sur l'article 7.
D'ailleurs, Laurent Berger a reproché à la NUPES d'avoir empêché ce vote sur l'article 7, je le rappelle.
Oui.
Ouais, ah oui, voilà, mais c'est vrai, oui. Mais bon, après,
stratégiquement, c'est une erreur.
C'est pour mieux dire ensuite des rives machines.
Ah oui, ouais, allez-y.
Je suis d'accord, attention.
Ça part de responsabilité, puisqu'il a aussi supplié avec la NUPES et pratiquement tous les autres partis politiques à voter pour Macron. Donc tous ces gens, en fait, essayent de se racheter une conscience politique envers les Français, alors qu'ils ont tous contribué à voter pour Macron.
C'est leur mauvaise conscience qui parle?
Bien sûr, c'est leur mauvaise conscience. Et puis aussi, c'est parce qu'en fait, ces gens ont une rage contre le Rassemblement National. Le Rassemblement National augmente dans absolument tous les
sondages.
Les sondages, oui, merci.
Plus la NUPES fait le bazar, plus ils augmentent. Hein.
Oui, mais la NUPES fait le bazar pour faire oublier qu'ils ont fait de l'obstruction, qu'ils ont empêché le vote de l'article 7. Ils veulent faire oublier qu'ils ont voté pour Macron. Ils veulent faire oublier qu'ils ont refusé de voter pour la réforme.
Monsieur Macron a été élu.
Vous voulez qu'il vote pour Le Pen?
Ah ben
qui s'abstiennent. C'est quoi ce cinéma? Vous croyez que des gens de gauche vont voter pour Le Pen? Non, mais c'est un rêve, ça.
C'est pas un rêve.
S'abstiennent.
Des gens de gauche votent déjà.
Il y a déjà des gens de gauche qui votent pour Le Pen.
Mais non.
Laisse finir, Brian.
Ah bon?
Allez-y. C'est le problème, Madame Le Pen. La Macronie attaque sans cesse en longueur de journée le Rassemblement National et Madame Le Pen. La NUPES attaque toute la journée, à longueur de journée, le Rassemblement National et Madame Le Pen. Tout le monde attaque le Rassemblement National parce qu'ils ont peur du Rassemblement National, pas pour leur programme, pour cette derrière attention à l'extrême droite. Non, parce qu'ils savent très bien qu'en réalité, le Rassemblement National va régler tous les problèmes qu'aujourd'hui il y a en France, ne mettra pas les problèmes tout
à l'heure. Vous êtes électeur à son national.
je pense honnêtement que LFI est plus attaqué que RN en ce moment.
Oui, LFI en prend bien plus la gueule que le RN, excusez-moi.
Je ne suis pas du tout proche de LFI, mais
LFI se fait insulter par le gouvernement tous les jours.
Bon, il le cherche aussi.
RN, c'est plutôt discret en ce moment quand même, Brian. Il ne passe pas grand-chose autour du RN.
Le RN, quoi qu'il fasse, de toute façon, il y a toujours un truc à dire, toujours leur pote. Alors moi, je vais juste vous dire, la NUPES a refusé de voter la motion référendaire, alors que des députés de Lyotte le souhaitaient, des députés LR le souhaitaient, les députés Rassemblement National allaient la voter. La NUPES, parce qu'ils ont boudé, parce qu'on n'avait pas choisi la leur, et ben du coup, on la vote pas. Et ben du coup, c'est ce qui permet encore aujourd'hui qu'on soit dans cette situation.
C'est pas grave, puisque quand Mme Le Pen sera au pouvoir, on remettra la retraite à 62 ans, elle s'y est engagée. Peut-être Brian, même à 60, comme le disait son programme. Même à 55. Hein.
La discussion est finie. Moyane, il est 10h20. L'opposition doit-elle accepter sa défaite, oui ou non? On va regarder le résultat de la petite consultation qu'on a mise sur les réseaux sociaux. Voilà. On est toujours sur les deux tiers, un tiers. Non.
Ici, c'est l'inverse. On est sur les 4/5.
Pas d'acceptation de la défaite, 63-37 pour ceux qui ont suivi la discussion et qui ont voté sur Twitter. Dans un instant, on s'en fout pas avec notre producteur Louis Gerbier. La ville de Rennes interdit la pêche dans les étangs, les Français délaissent le stylo pour le clavier et Al Pacino va être papa à 89 ans. On s'en fout ou on s'en fout pas?
RMC, 9h midi, les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Puisqu'on parle de la radio RMC, on est heureux de voir que les fréquences s'enchaînent pour RMC. C'est vrai qu'on partait de loin par rapport à la concurrence.
On est toujours d'ailleurs, saluons les bonnes performances de France Inter, première radio de France, mais c'est aussi la radio qui est le plus d'émetteurs dans le pays, beaucoup plus qu'RTL par exemple.
C'est vrai qu'on
joue un match avec des règles différentes.
Et c'est quand même bienvenue, puisque nous gagnons des fréquences et on va mécaniquement bien sûr aussi gagner des auditeurs et vous allez découvrir toutes les émissions de débat d'RMC. Donc bienvenue à nos nouveaux auditeurs dans l'Aude sur la fréquence de Lézignan-Corbières sur le 104.2. On est arrivé à Angers également. Et d'ailleurs, pour fêter notre arrivée à Angers, c'est Estelle Denis et toute sa bande qui seront demain à la rencontre des Angevins. En direct du théâtre.
On va les faire inviter à manger là-bas maintenant, on va se reconnaître.
À dîner.
C'est mon petit frère, Angers.
Écoutez bien, on dirait du théâtre Le Quai à Angers demain de midi à 15h. On aura l'occasion de vous en reparler. Et Estelle Denis,
c'est une vie très sympa, Angers.
Ah ouais, super.
La douceur angevine. Ouais. Les amis, le Maine-et-Loire.
La soupe angevine, surtout. Le ministre de la transition écologique était le maire d'Angers.
Monsieur Béchu.
On y va pour l'on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
On était en train de parler de la soupe angevine.
Voilà, ça va loin.
Bah oui, la soupe angevine, c'est à base de crémant d'Anjou. C'est un cocktail, quoi. Ça se boit comme de l'eau, enfin avec modération, mais
les mecs sont un peu entraînés quand même.
Mais parce que
un mec qui est pas initié au deuxième verre d'eau, t'es pas bien quand même.
Il y a la plus belle tapisserie du monde, la plus longue tapisserie du monde, le jugement dernier, qui est un truc absolument phénoménal.
Je suis moins sensible à ça que.
Je pense que c'est bon, on l'a bien fait sur Angèle.
Ouais, on peut y aller. Allez.
Estelle Denis donc sera demain avec vous, elle vous en parlera tout à l'heure. On y va, Louis. On s'en fout, on s'en fout pas.
Allez, du Maine-et-Loire à l'Ille-et-Vilaine, on va à Rennes. La municipalité vient d'adopter une charte pour la condition animale. Elle interdit la pêche dans les étangs de la ville. On s'en fout, on s'en fout pas, Willy.
Évidemment qu'on s'en fout pas.
Tara.
On s'en fout.
Et Étienne.
Non, on s'en fout pas.
Allez, oui, dis-nous. Pourquoi tu t'en fous pas?
On est encore une fois parti dans cette dérive animaliste exacerbée. T'as un peu de gens, d'ailleurs. Les étangs de la ville sont plutôt des gens, je dirais, modestes, qui vont pêcher un petit peu le dimanche, un barbecue, les copains, et qui attrapent quelques poissons. Bon, enfin. Ou en quoi ça dérange? Faut-il mettre une charte animale pour protéger les poissons des étangs? Ce sont des endroits qui sont d'ailleurs nettoyés par ces mêmes gens. J'ai regardé, il y a des assos, ils s'entretiennent, c'est leur petit truc, c'est public. Ils attrapent quelques poissons dans la limite du raisonnable. Où était le problème? Évidemment, la chasse, la pêche, le droit de monter sur le dos d'un cheval, et des tas de choses comme ça. Demain, les animaux, enfin, c'est une catastrophe, c'est une vraie dérive. Cette dérive écologique aujourd'hui à la tête de la ville de Rennes est vraiment inquiétante pour le reste. Et puis demain, allons jusqu'au bout. Est-ce qu'on aura encore le droit d'avoir un animal de compagnie?
Oui, parce que c'est un élu municipal délégué à la condition animale qui dit
animal,
aujourd'hui, ouais. Le problème, c'est quand on va pêcher les poissons, reste sur les rives, les appâts. Et donc, ça crée des parasites pour la biodiversité.
J'ai pas compris, là. Mais...
Non, il va plus loin. Il dit les poissons sont capables de souffrir.
Ils sont mutilés.
Et on est soucieux de leur personnalité.
Oui, mutilés. Voilà.
Ils sont moins conclus.
La personnalité du poisson.
Étienne ?
Ouais, c'est un double sujet. Il y a le sujet. Moi, je suis assez d'accord pour interdire la pêche. Je vois pas l'intérêt. Mais ceci dit, plus profondément, il y a cette question vraiment sociétale qui se pose de la place de l'animal et de l'animal domestique, sur lesquels on pourra pas rester encore longtemps sans mener une véritable réflexion au niveau du pouvoir. C'est-à-dire vraiment, quelle est la place de l'animal et est-ce qu'on accepte aujourd'hui une véritable révolution philosophique et religieuse, parce que dans la Bible, les animaux, c'est pas leur paradis. Donc, on accepte une révolution et on considère que l'animal a changé de statut. Il faut simplement qu'on en soit tous conscients et qu'on le dise. Voilà, c'est une évolution.
Surtout,
décivilisation.
On parlait de démocratie tout à l'heure.
Oui, c'est une décivilisation.
Alors, certes, ce délégué fait partie de la municipalité de Rennes qui a été réélu. Mais enfin, dans ce cas-là, organisons un référendum.
Consultation. Et puis, on n'écoute pas le résultat.
En général, quand le résultat ne va pas dans le sens de la...
On continue.
On précise juste que la mairie de Rennes a été sollicitée par les chasseurs-pêcheurs, mais qu'elle ne leur a pas répondu.
Non. Ah. Ouais. Non, je comprends pas pourquoi.
On continue.
Allez, on enchaîne. Michael Corleone, Al Pacino, va devenir papa pour la quatrième fois à 83 ans.
Combien ?
83 ans, avec sa compagne de 29 ans, Nour Alfala. On s'en fout pas, Étienne.
Non, on s'en fout pas parce que c'est
un peu
comme ça.
On s'en fout pas.
Et Willy ?
On s'en fout.
Sarah, vas-y, dis-nous pourquoi tu t'en fous pas.
On s'en fout pas. Alors bon, c'est vrai que 60 ans d'écart, c'est peut-être un peu beaucoup.
Attention, elle va nous expliquer quelque chose. Je le sens là, vas-y.
Mais il les fait pas, déjà pour commencer.
Ah, il
les mauvaises langues vont dire qu'elle est là pour de mauvaises raisons. Moi, je pense qu'on veut aimer les hommes plus âgés. Je suis bien placée pour en parler. Néanmoins, 60 ans, ça me paraît peut-être un peu trop. Voilà.
60 ans d'écart ?
Oui.
Mais est-ce que c'est égoïste de faire un enfant à 83 ans ?
Non, les gens font ce qu'ils veulent.
Ah non, c'est un gamin, il est heureux. Ça fait une vie qui va naître. Mais le problème.
Moi, je vois pas le problème.
Si le père est plus là, il va.
Attends.
Le père sera plus là.
Non, Olivier, il y a des pères qui font un enfant, je sais pas, à 30 ans, à 40 ans, qui ne s'occupent absolument pas de leurs enfants. Ils ne payent même pas la pension alimentaire, qui ne font rien.
C'est vrai.
Donc, je ne vois pas pourquoi un père, bon, c'est vrai qu'il est un peu vieux, enfin, il est grave vieux, mais je vois pas pourquoi.
Grave vieux.
Je vois pas pourquoi un père de 90 ans serait un moins bon père qu'un père de 40.
Ça va être moins plus court quand même, ça c'est sûr.
Ça se discute.
Je pense qu'à cet âge-là, quand on fait un enfant, c'est qu'on le veut, hein. C'est pas un accident de parcours. Donc, vouloir un enfant à 83 ans, à mon avis, c'est parce qu'on imagine, on se projette dans l'avenir et c'est une forme de refus de la mort.
C'est une forme de jeunisse.
C'est une forme de refus de sa propre disparition, en se disant qu'une responsabilité nouvelle nous échoit et que ça nous conduit à continuer de vivre. Je pense qu'il y a là un véritable problème d'ordre psychanalytique. Quoi.
Moi, je pense pas. Pour conclure juste là-dessus, ça peut être aussi le désir de sa compagne.
Oui, c'est ça.
Qui, elle, dit, mais moi, j'ai envie d'avoir un enfant.
Et qu'elle aille voir le voisin.
Mais non, arrête.
Oh, Étienne, t'es affreux.
N'importe quoi, arrête.
Al Pacino qui habite juste en dessous.
Elle a envie d'avoir un enfant.
25 ans.
Et peut-être que par amour pour elle, il lui dit, on va faire cet enfant, même si je sais que je le connaîtrai pas pendant 30 ans.
Pour préciser une chose, cette femme qui s'appelle Nour Alfala, aime bien les personnes beaucoup plus âgées qu'elle, puisqu'avant, elle était avec Mick Jagger.
Ah oui.
Et oui, et ça s'est arrêté.
Il avait quel âge ?
À l'époque, il avait 74 ans.
Il était trop jeune.
Voilà. Et voilà ce qu'elle disait. Nos âges n'avaient pas d'importance. Pour moi, le cœur ne sait pas ce qu'il voit. Il ne sait ce qu'il ressent.
Il ne trouvait pas assez mature.
Oui, elle
manque de maturité.
Un gamin.
Elle a gardé les couches.
Beaucoup trop joueur.
Allez, on termine.
Les Français n'écrivent plus. 78% des personnes interrogées par une étude disent écrire moins à la main qu'il y a 10 ans. On s'en fout pas, Étienne.
Bah, on s'en fout pas, ça.
Willy.
On s'en fout.
On s'en fout pas. Allez.
Et Sarah ?
On s'en fout pas.
Étienne, dis-nous pourquoi ils s'en foutent.
Parce que c'est une vraie évolution de la société. Je trouve ça absolument passionnant. On a avancé dans la société. On avait déjà avancé. Il y a eu un moment où personne n'écrivait, que les prêtres et ceux qui possédaient le savoir. Et puis à un moment, il y a eu une démocratisation de la lecture et de l'écriture mécanique. Et aujourd'hui, on arrive à cette forme d'écriture qui est l'écriture sur écran, qui ne change rien fondamentalement au fait qu'on s'exprime par l'écriture, mais qui change tout sur le fait de l'objet qui nous sert à écrire. C'est une révolution du mode d'écriture. C'est passionnant. Est-ce que ça va changer notre façon de penser? On peut, par exemple, en Chine, c'est très important, les Chinois ont changé leur mode d'écriture, ont changé l'idéogramme, l'idéographie, qui était quand même essentielle dans leur mode de culture, pour un système alphabétique de façon à pouvoir utiliser les ordinateurs. On voit que dans ce pays, il y a eu une acceptation générale de la population d'absolument changer tout.
C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix.
L'acceptation générale en Chine, Étienne, excuse-moi, mais elle est rare quand même.
En tout cas, tous les enfants s'y sont mis. Aujourd'hui, les Chinois, pour pouvoir apprendre à parler anglais, ont accepté l'écriture alphabétique. Donc c'est un changement de façon de penser.
Oui, alors, pour moi, il y a quand même un problème. C'est qu'on sait de. Enfin, je pense que ça implique.
Tu utilises encore beaucoup ton stylo?
Non, quasiment plus, mais quand j'ai un stylo à utiliser.
Vous ne pas votre stylo?
Quasiment pas, et j'ai plus l'habitude d'écrire. J'écris lentement quand j'écris avec un stylo. Et je trouve que ça facilite les fautes d'orthographe quand on écrit qu'à l'ordinateur. Parce qu'on est tellement habitué au correcteur automatique qu'il y a de plus en plus de gens qui ne savent plus écrire à la main quand on leur demande.
C'est grave.
Comment?
Est-ce si grave?
Bah de faire des fautes, oui, c'est un peu
grave. Est-ce si grave?
Bah oui. Faire des fautes, c'est embêtant.
Puisque t'as le correcteur automatique.
Bah, non.
Donc tu n'apprends plus alors.
Non, mais c'est toute la question. Est-ce que d'avoir une machine à calculer et de ne plus faire ses fractions.
Bah, c'est bien d'apprendre le calcul mental.
Est à la fois grave et en même temps extraordinairement rationnel.
Non, parce qu'il faut comprendre pourquoi on doit écrire comme ça.
Comment les règles de grammaire fonctionnent un minimum. Tu peux pas te dire je ne sais pas écrire, il y a le correcteur. T'auras pas toujours le correcteur.
Merci, mon cher Louis Gerbier. À tout à l'heure. Ça se passe chez vous tout à l'heure. Nous serons du côté de Strasbourg avec un pasteur qui continue d'être menacé de mort parce qu'il organise un spectacle de pole dance dans son église.
Moi, j'y vais quand même. Hein.
Alors, est-ce que c'est la place est-ce que
moi, je vais l'organiser à la synagogue.
Le pole dance homme.
Le pasteur, il aime ça.
Est-ce que ça la place dans son église? On en parlera tout à l'heure à 11h20 dans le Ça se passe chez vous à Strasbourg. Dans un instant. On sera du côté du Bas-Rhin aussi avec des agriculteurs qui doivent laisser au sol leur récolte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bras pour la ramasser. Où sont passés les saisonniers?
Pour de la pole dance.
Des champs.
Dans les granges.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.